écoutez RFI, il est 18h ici à Paris, 17h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Lundi 11 novembre. Bonsoir à tous. On est ravis de vous retrouver pour la grande soirée de l'info sur RFI. Un grand sujet ce soir, l'ouverture de la COP29 en Azerbaïdjan. Alors voici les temps forts des 3 heures à venir. Bien sûr, on va y revenir à cette COP29. Mais d'abord, dans 10 minutes, le décryptage. Et Véronique Rigolet, ce soir, vous nous parlez de l'Ukraine.
Oui, l'Ukraine prise entre la menace nord-coréenne et le retour de Donald Trump après 2 ans et demi de guerre. Les mauvaises nouvelles s'amoncellent pour Kiev. Nous en parlerons avec l'ancien ambassadeur de France à Moscou, Claude Blanche-Maison.
À tout à l'heure, Véronique. Ensuite, ce sera l'heure du débat du jour. Notre question ce soir, est-ce que l'Afrique peut s'adapter au changement climatique? Le continent qui est considéré comme en première ligne face au réchauffement de la planète, comment l'affronter et surtout qu'attendre des soutiens à l'Afrique? Rendez-vous dans 30 minutes sur RFI, 18h, temps universel. Adrien Delgrange pour le Grand Journal du Soir, 18h30 TU, Afrique Soir, la première édition, 19h10 TU. Votre session reportage sur RFI, Accent d'Europe parlera environnement en Silésie. La Silésie, c'est une région minière de Pologne. Et puis le grand reportage ce soir au Tchad, les soldats de l'eau face au changement climatique. Mais pour l'heure, il est 18h01 et c'est le journal de Théo Renaudon. Bonsoir Théo.
Bonsoir Romain. Un certain progrès dans les négociations d'un cessez-le-feu au Liban annonce aujourd'hui du ministre israélien des Affaires étrangères. Rien de concret ne nous est parvenu, tant perd lui le porte-parole du Hezbollah ce lundi. Dans le même temps, les combats se poursuivent, nombreux bombardements israéliens au sud du Liban. En Syrie, un média officiel fait état de frappes près de Homs. Le Hezbollah, lui, revendique salve de missiles sur des troupes israéliennes en territoire libanais. Et à quelques milliers de kilomètres de là, en Arabie Saoudite, le royaume convie 22 pays de la Ligue arabe, plus 50 états de l'Organisation de la coopération islamique. À cette occasion, le premier ministre libanais, Najib Mikati, a lancé un nouvel appel à l'aide.
Le Liban traverse une crise historique et fatale sans précédent qui menace son présent et son avenir. Il subit une agression israélienne flagrante qui bafoue les règles les plus élémentaires du droit international humanitaire et des conventions de Genève destinées à protéger les civils dans les conflits armés. Je vous invite à soutenir l'État libanais et ses institutions constitutionnelles, souveraines et monétaires, et à continuer d'envoyer une aide humanitaire, alimentaire et sanitaire urgente. J'appelle également les pays de la région et du monde à respecter le caractère distinctif du Liban et à le soutenir en tant que modèle pluraliste exemplaire pour toutes les sociétés de ce type. Je les invite à ne pas intervenir dans ces affaires intérieures en soutenant un groupe ou un autre, mais à soutenir l'État lui-même en tant qu'entité.
L'inquiétude en Ukraine après une frappe russe sur un barrage à Kourakouvé, tout à l'est du pays. Une importante montée des eaux est en cours, créant une menace d'inondation selon un gouverneur local. Et ce lundi, c'était le top départ de la COP29 à Bakou. Le financement de l'aide climatique par les pays riches n'est pas une œuvre de charité, prévient le patron de l'ONU Climat, avertissement lancé dans son discours d'ouverture de cette COP29. Le principal enjeu de cette COP, c'est de trouver des sous pour lutter contre le réchauffement climatique, ou plutôt de savoir qui va sortir le porte-monnaie. Pays riches et pays en voie de développement se renvoient la balle. Et pourtant, un engagement existe. 100 milliards de dollars par an des pays du Nord vers les pays moins développés, promesse qui date de 2009 mais qui n'a pas été tenue jusqu'en 2022, Justine Fontaine.
Cette promesse remonte à la COP15 de Copenhague. Les pays industrialisés s'étaient engagés à verser 100 milliards de dollars par an aux pays du Sud sous forme de dons ou plus souvent de prêts, cela au plus tard à partir de 2020. Sauf qu'en 2020, le compte n'y était toujours pas, le montant n'a été atteint que 2 ans plus tard et souvent c'était de l'argent destiné initialement à de l'aide au développement. Alors que dans le même temps, face au Covid-19, les plus grandes puissances mondiales ont réussi à débloquer très rapidement des milliers de milliards de dollars pour faire face à la pandémie. L'engagement pris en 2009 arrive à son terme à la fin de l'année. Il faut donc trouver un nouvel accord. Un groupe d'experts de l'ONU chiffre non pas à 100 milliards, mais plutôt à 500 milliards par an les besoins pour l'action climatique dans les pays du Sud. Un montant probablement sous-évalué qui semble pourtant difficile à atteindre lors de cette COP, car après le Covid, justement, la dette a explosé un peu partout dans le monde et de nombreux États cherchent à réduire nettement leurs dépenses publiques.
Justine Fontaine, le Bitcoin bat tous les records. La première des crypto-monnaies vient de dépasser les 82 000 dollars contre un seul Bitcoin, hausse encouragée par la perspective d'un assouplissement réglementaire annoncé par Donald Trump. C'est ce qu'estime en tout cas l'expert des marchés financiers Guillaume Dejean.
Il y a plusieurs facteurs. Il y a une recrudescence et un effet Trump qui est assez saisissant. Trump représente un candidat qui est pro-dérégulation, qui est pro-assouplissement fiscaux, qui est favorable finalement au milieu des affaires. On attend moins de régulation en faveur des entreprises et des bitcoins. Et surtout, les entreprises de crypto-monnaies ont été des gros soutiens de la campagne électorale. Et on espère un retour, entre guillemets, sur investissement de la part de ce milieu. C'est là aussi tout l'intérêt. C'est que les États-Unis, c'est la première place boursière mondiale. Donc il y a aussi plus d'investisseurs à cet endroit-là, donc plus d'argent aussi à se faire.
Propos recueillis par Agnieszka Kumor. Mandat fragile, mais mandat quand même pour le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba, réélu ce lundi à l'issue d'un vote du Parlement. Pouvoir fragile après des élections législatives désastreuses pour son parti, le Parti libéral-démocrate. Élu pour la première fois il y a un mois, le Premier ministre nippon avait convoqué des élections anticipées, espérant asseoir un peu plus son pouvoir. Raté, les Japonais mécontents de l'inflation l'avaient sanctionné. Pourrait-il y avoir un antisémite à la tête de la Lituanie, ce pays des Balkans tout au nord de l'Europe? La nouvelle coalition au pouvoir est composée de démocrates de centre-gauche qui se sont alliés avec un parti d'extrême droite, Aurore de Nemousas. C'est le nom de ce parti dont le leader est actuellement jugé pour propos antisémites. Explication de notre correspondante à Vilnius, Marielle Vituro.
Depuis l'annonce de la participation du parti Aurore de Nemousas à la coalition, de nombreuses personnalités politiques américaines, allemandes, israéliennes, polonaises se sont indignées, sans compter les voix d'autres partis politiques et des intellectuels en Lituanie. À peine l'accord de coalition signé, les sociaux-démocrates se sont justifiés. L'antisémitisme n'aura pas sa place dans la coalition et Remigius Žemaitaitis, à la tête du parti Aurore de Nemunas, n'aura pas de poste ministériel. Un point du programme de la coalition concerne aussi la lutte contre l'antisémitisme. Néanmoins, l'heure est à la méfiance. Une manifestation est prévue jeudi prochain, jour où les nouveaux parlementaires vont se réunir pour la toute première séance. Le président lituanien a aussi fini par s'exprimer. La présence de ce parti est une erreur. Les débuts de la nouvelle coalition sont chaotiques, tant en Lituanie que sur la scène internationale, alors que les circonstances géopolitiques dans ce pays limitrophe de la Russie imposent une tenue de conduite ferme et conséquente. Marielle Vituro, Vilnius, RFI.
Allez, on va pas tarder à se quitter, mais avant ça, un peu de musique avec le nouvel album de Pedro Cuyate, un jazzman, bluesman, guitariste et choraliste franco-malien. Ça s'appelle Following, c'est un hommage aux ancêtres, mais aussi à la force de la vie qu'engendre la musique, Olivier Roger.
De sa voix fêlée s'échappent les émotions et de sa guitare une musique tour à tour mélancolique et grave. Avec le temps et au fil des albums, Pedro Cuyate assagit ses rythmes et gagne en profondeur. Sur Following, il rend hommage aux ancêtres disparus, ceux qui ne doivent pas mourir une deuxième fois par l'oubli. L'occasion pour le guitariste et choraïste malien de se souvenir aussi de deux hommes qui ont marqué son art, le choraïste Toumani Diabaté et le bluesman Boubacar Traoré.
Dans la vie, il faut avoir un cadre. Boubacar, il a été le père que j'ai jamais eu. Toumani a été le grand frère. On ne peut pas peser 15 kilos quand on fait la guerre. Il te faut des référents. L'amour que Toumani m'a donné, l'amour que Boubacar m'a donné, la confiance que Boubacar m'a donné, je savais à l'instant T ce que ça valait.
Hommage aux anciens, hommage aussi aux amis. Pedro Cuyate en a invité une foule sur cet album, produit par le jeune label Caisson Records, le chanteur Arthur H, le batteur Manu Katché, le trompettiste Eric Truffaz et son compère, le franco-malien Oxmo Puccino, auteur de ce sublime Hiver.
Ne laisse rien tomber d'autre que la neige. Rien ni personne.
Voilà un reportage d'Olivier Roger. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Moi, je vous laisse avec Véronique Rigolet. Bonjour Véronique.
Bonsoir Théo, bonsoir à tous.
Pour le décryptage.